Radio Okapi.
Le journal, c'est avec vous, grâce à Mzati Masanzi.
Tous les enfants de l'Ituri qui ont pris les armes contre la République sont appelés à adhérer au processus de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation afin de permettre le retour définitif de la paix dans cette province pour son développement. C'est le message de la représentante du gouverneur en matière du genre, Irène Vaweka. Un appel lancé en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Plus de 28 000 personnes viennent de regagner leur milieu d'origine dans la zone de santé de Mueso, dans les territoires du Massissi au Nord Kivu, portant le total à plus de 78 000 retournés dans le Massissi depuis le début de cette année. Cependant, ces retournés sont confrontés à plusieurs difficultés. Lutte contre la malnutrition dans la province de la Tchopo. Un plan ambitieux élaboré avec l'appui de partenaires et de la société civile à l'issue d'un atelier organisé par la division provinciale du plan avec le soutien de l'UNICEF. Le chef de la division provinciale du plan dans la Tchopo, le docteur Norbert Mosunga, nous en parle dans ce journal. Il est notre invité. À toutes et à tous, bonsoir. Les groupes armés de l'Ituri doivent déposer les armes pour permettre à des milliers de femmes qui vivent dans des conditions très déplorables dans les sites de regagner leurs villages respectifs pour qu'elles mènent leur vie normale. C'est l'appel de la conseillère et représentante du gouverneur de la province de l'Ituri en matière de genre à l'occasion de la célébration du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Selon Irène Vaweka, les fils et les filles de cette province qui ont pris les armes contre la République doivent adhérer au processus de paix des RCS pour permettre le retour définitif de la paix en Ituri en vue d'une relance économique, notamment à travers l'agriculture. Elle ajoute que le gouvernement fait tout pour que ces déplacés retournent dans leur milieu. Irène Vaweka est au micro de Martial Kiza Biamongo.
La situation est déplorable, partant de leurs conditions de vie, mais quand ce sont des femmes qui ne baissent pas le bras, qui continuent à se battre pour le survie de leur famille et de leurs enfants, nous demandons aux enfants fils de l'Ituri et filles de désarmer, de rejoindre le programme PDDRCS afin de permettre à ces familles qui souffrent dans les sites déplacés de regagner leur milieu d'origine, afin de faire le champ, l'agriculture et subvenir à leurs besoins. L'appui du gouvernement est à tous les niveaux, notamment sécuritaire, où le gouvernement, tant au niveau national que provincial, cherche à sécuriser la femme itourienne, ainsi que les femmes qui se retrouvent aussi des déplacés, mais aussi l'appui avec les dialogues au niveau des communautés pour essayer de sensibiliser les communautés à l'unité, à la cohésion sociale ainsi qu'à la paix de la province de l'Ituri.
Et à l'occasion toujours de la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la femme, au Maniema, une conférence débat a été organisée à l'université de Kindu à l'intention du personnel féminin et des étudiantes. Ces cadres d'échange avaient pour thème central le droit, l'égalité et l'autonomisation de la femme. Florence Kizalunga était présente. Voici son compte rendu.
L'une des oratrices, Maître Laini Tenda Keren, fait savoir que c'était l'occasion de rappeler aux femmes leurs droits selon la loi.
Nous avons saisi cette occasion pour rappeler les femmes et les jeunes filles sur leurs droits tels que prévus par les textes. Au même moment, nous avons abordé les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux.
Le participant salue l'initiative Kabena Buntu Rose.
Ça a été un grand enseignement et ça m'a vraiment beaucoup édifié. Que ce genre de manifestations ne soient pas seulement organisées le 8 mars, mais que ces organisations soient continuelles, enfin, de stimuler la femme à connaître ses droits et devoirs et aussi à s'autoprendre en charge.
Maître Sylvain Kaloumé, représentante du personnel féminin de l'UNIKI, espère un accès à plus d'avantages pour les femmes.
Les femmes de l'université de Kindu réclament premièrement les droits, l'égalité et l'autonomisation. Après ces assises, nous nous attendons à l'application de toutes les recommandations que nous venons de faire aux autorités.
Cette conférence s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives et académiques de la place. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et à Kalemi dans le Tanganyika, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce 8 mars sous le thème provincial « La femme du Tanganyika face à son autonomisation, sa dignité ainsi que sa participation à la paix durable pour le développement de la RDC ». La ministre provinciale du genre a lancé un appel à toutes les femmes à se lever pour défendre leurs droits. Le point avec Paul Mounanga.
Marie-Rose Kasilembo, ministre provinciale du genre du Tanganyika, appelle les femmes à unir leurs efforts pour soutenir les droits des femmes dans tous les domaines. En rapport avec l'agression de la RDC, la ministre a exprimé la solidarité des femmes du Tanganyika envers celles du Nord et du Sud Kivu qui sont profondément affectées par la guerre. Elle a déclaré, je cite, « La femme dit non à l'agression rwandaise ». Fin des citations. Pour Albertine Kungwa, coordinatrice de l'association Wapandaji, la femme est victime de la guerre qui secoue l'est du pays, mais elle ne baisse pas les bras. La femme du Tanganyika œuvre pour la paix à sa façon.
Notre pays traverse une période très très mauvaise. Il y a une guerre. Cette guerre qui tue, qui pille, qui viole. Et quand on parle de violence, on voit plus la jeune fille et la femme qui sont des victimes. La femme participe à cette paix avec des initiatives personnelles telles que je vous parle ici. Je suis dans une des paillotes de paix installée par le Fonds pour les femmes congolaises. Wapandaji était bénéficiaire et nous œuvrons pour que cette paix soit vraiment là.
La maire adjointe de Kalemie a pour sa part appelé toutes les femmes à se ranger derrière les forces armées afin de barrer la route aux agresseurs.
Merci à vous, Paulin Mundanga. Et pour boucler ce chapitre sur la journée du 8 mars, sachez que le ministère provincial du genre, famille et enfants du Kwilu a organisé hier un culte œcuménique à la paroisse Saint-Hippolyte à Bandundouville. Objectif, implorer la grâce des dieux sur la RDC qui fait face à la guerre lui imposée par le M23 soutenu par le Rwanda. Au cours de ce culte qui a réuni des centaines d'hommes et des femmes de toutes les couches sociales, une collecte de fonds a été faite pour soutenir les FARDC ainsi que les Wazalendo qui combattent au front. Marie-Thérèse Manessa, ministre provinciale du genre, famille et enfants du Kwilu, est au micro de Irène Mboma Luzolo.
Malgré que la pluie s'est abattue sur la ville, les mamans sont venues, les hommes gérés sont passés et le culte œcuménique vient d'avoir lieu. Le culte, il y a eu deux parties principales. La première partie, c'était purement religieux, où on a écouté la parole de Dieu, on est passé à l'intercession pour implorer la grâce de Dieu sur notre pays, soutenir ceux qui sont front, les FARDC et les Wazalendo. La deuxième partie, c'était la partie de collecte. Ça s'est bien passé et les enfants de Dieu ont mis la main dans leur poche et ils ont donné l'épée qu'ils ont eue pour que ça aide nos frères et sœurs qui sont front. Nous avons eu un numéro pour l'effort de guerre. Nous, on va verser dans ces comptes-là. Ça ne peut pas s'arrêter tant que la guerre ne s'arrête pas encore. Ça, c'est le chef lieu de la province du Kwilu. Les messages, nous avons répercuté dans tous les territoires. Et nous allons instruire au chef de bureau, genre enfants et famille, de continuer l'opération parce que tous les mois, on nous l'a donné. Donc, on peut continuer d'une manière sectorielle de faire ces collectes et envoyer à nos frères qui sont en difficulté.
Signalons qu'à la fin de cette activité, au total, un montant de 490 000 francs congolais plus 100 dollars a été mobilisé à cet effet. Nous venons de l'apprendre. Au Nord Kivu, la cité de Nyabiondo, dans les territoires du Masisi, passe sous occupation des rebelles de l'AFC M23 ce dimanche. Ceci après d'intenses combats, les opposants au FARDC appuyés par des combattants de l'APC Céleste de Janvier Kalahiri. Nyabiondo, chef-lieu du secteur de Osobanyungu, est situé à environ 110 km au nord-ouest de la ville de Goma. Ces combats ont encore une fois occasionné un déplacement massif des populations. Ces dernières, sous une pluie battante, ont fui vers Kachébéré. La prise de Nyabiondo rapproche le M23 de la porte du territoire du Walikale, un territoire riche en minerais et où se trouve le siège de la société minière Alpha Mine. Signalons que c'est le quatrième jour consécutif ce dimanche que les rebelles du M23 s'affrontent au FARDC et Wazalendo dans la région des Masisi. Toujours dans la province du Nord Kivu, nous l'avons dit dans les titres, plus de 28 000 personnes ont récemment regagné leur village dans la zone de santé des Mueso, dans les territoires du Masisi, portant le total à plus de 78 000 retournés dans les Masisi depuis janvier 2025. Ces populations font face à des défis majeurs liés à la destruction des infrastructures, ce qui limite leur accès aux soins, à l'éducation et aux moyens de substances. Pour soulager tant soit peu la souffrance de ces retournés, les humanitaires organisent des distributions en vivres et non vivres en leur faveur. La coordination des affaires humanitaires au Tchad, dans son récent rapport du 8 mars, évoque également les défis sécuritaires et logistiques persistants à la réponse humanitaire dans plusieurs localités. N'est-ce pas, Askinzig Biatayoro?
Elles sont environ 200 000 personnes retournées des villages de la localité de Mueso qui reçoivent de vivres depuis le début de ce mois. 13 000 autres ménages bénéficient des articles ménagers essentiels et d'eau, hygiène et assainissement. Et plus de 14 000 enfants dans cette même région reçoivent un traitement contre la malnutrition, rapporte OCHA. Cependant, le défi sécuritaire et logistique à la réponse humanitaire persiste dans plusieurs localités, ce qui ne facilite pas du tout le travail des humanitaires dans cette région dit Ocha. Et pour consolider ces retours, Ocha estime qu'une coordination interagence est essentielle afin de garantir la sécurité, l'accès aux services de base et la réhabilitation des infrastructures. D'autre part, Ocha fait savoir que la fermeture de banques et institutions de microfinance paralyse aussi la distribution de l'aide d'urgence aux retournés par transfert monétaire. Par ailleurs, la fermeture de l'aéroport de Goma depuis fin janvier dernier oblige les humanitaires à utiliser des itinéraires alternatifs via la Tanzanie et le Rwanda. Des retards à la douane bloquent des cargaisons, y compris celles arrivées avant la prise de contrôle de Goma, souligne Ocha.
Askin Zigbia Tayoro, nous restons en Nord Kivu pour vous dire que le bilan des affrontements du mercredi dernier entre les rebelles du M23 et les Wazalendo dans les villages de Tambi, dans les territoires du Masisi, est revu à la hausse. Des sources locales parlent d'au moins une cinquantaine de victimes tuées et 7 blessées au cours de ce combat. Tambi est situé à environ 30 km de Masisi Centre, dans le groupement de Bachali Mokoto. Selon une source à Kaira, proche de Tambi, certaines victimes auraient été surprises dans leur sommeil. Elles sont mortes, calcinées, quand leurs maisons ont été incendiées. Mercredi dernier, vers 22h, heure locale, en effet, les Wazalendo auraient mené une incursion dans ces villages, ciblant les rebelles du M23 qui l'occupent. Des affrontements qui ont fait au départ une quarantaine de morts, dont des enfants. La même source précise que la plupart des victimes sont des retournés venus de Kichanga, Kibarizo et Kirumbu. Signalons que le village de Tambi reste toujours occupé par le M23. Le mémorandum d'entente sur les minerais stratégiques que l'Union européenne avait signé avec le Rwanda, qui agresse aujourd'hui la République démocratique du Congo, doit être simplement annulé car dépourvu d'une traçabilité réelle et provient des zones de conflit. Cette déclaration est faite ce dimanche ici à Kinshasa par une délégation des députés européens conduite par Thierry Mariani. C'était à l'issue d'une réunion stratégique avec le ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Julien Paluku Kaungia a présenté aux députés qui siègent au Parlement européen les causes principales de l'instabilité à l'est de la RDC pendant plus de 30 ans, dont le pillage systématique des minerais et la destruction du tourisme congolais. Alain Irung.
Le Conseil européen va concrétiser les sanctions prises contre le Rwanda, a déclaré le député européen Thierry Mariani.
Nous, on est satisfaits que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars.
Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a plaidé pour que tous les minerais exportés par le Rwanda soient déclarés minerais du sang et que les unités rwandaises ne soient plus acceptées dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Julien Paluku Kaungia.
Il est inconcevable que l'Union européenne, qui est respectueuse de tous les principes du droit international, puisse continuer à considérer le Rwanda comme un partenaire crédible, alors que c'est à travers les versements du sang que les minerais sont extraits dans la partie est de la.
Les députés européens ont condamné les graves violations du droit international humanitaire commis par le M23 soutenu par le Rwanda.
Revenons à Ituri. 154 détenus militaires de la prison centrale de Bunia ont été libérés hier à la suite d'une décision judiciaire. Selon les directeurs de cette maison pénitentiaire, cette mesure vient répondre aux besoins d'État dans le cadre des opérations militaires contre la rébellion d'agression de la RDC. Cependant, certains activistes des droits de l'homme pensent que cette décision viole les droits des victimes. Radio Kapi Bunia, Martial Kiza, Biamongo.
Parmi ces 154 détenus militaires qui ont obtenu la libération, la majorité ont été poursuivis pour des infractions qualifiées de mineurs au sein des forces armées. Selon le directeur de la prison centrale de Bunia, il s'agit des violations des consignes, extorsion, désertion et autres qui sont réprimées par les codes pénals militaires à moins d'une année de servitude pénale principale. Il ajoute que d'autres avaient déjà purgé les trois quarts de leur peine. Cependant, pour des activistes de défense des droits humains, cette libération n'a pas tenu compte des droits des victimes. L'un d'eux, Maître Laurent Keya, de la Convention pour le développement des peuples forestiers à l'Ituri, CODEPEF.
Mais la plus grande désolation, c'est la libération de ces militaires sans tenir compte des droits des victimes qui ont subi les différentes infractions commises par ces militaires, que nos autorités, avant de procéder à la libération d'un si grand nombre de militaires qui ont commis beaucoup de bavures dans le pays, que les victimes, les familles victimes puissent être désintéressées.
Selon des sources judiciaires, une nouvelle vague de libération des détenus militaires à la prison centrale de Bounia pourra intervenir incessamment. Bounia, Martial Kizabia Bongo, Radio Okapi.
On enchaîne avec les Kasai Oriental, où les retournés de l'Angola et les déplacés internes des Kamwina Nsapu installés à Bena Kasampuila ont besoin d'un centre de santé, d'une école dans cette localité ainsi que la nourriture. Leurs doléances ont été relayées par les chefs de la localité lors de l'inauguration du forage de puits d'eau creusé par l'ONG ADES avec le financement des UNHCR. Des explications à Bujimai avec Esther Ndalafina.
Au nom des habitants de sa localité, le chef Chimanga Tshona a énuméré d'autres besoins fondamentaux pour les retournés de l'Angola et les déplacés internes installés dans son entité.
Nous avons donné la terre gratuitement. Je demande au HCR qu'il n'oublie pas les accords. Nous avons présenté trois préoccupations. Il y avait la construction des écoles, du centre de santé. Nous venons d'avoir de l'eau. Nous demandons sans exigence.
Docteur Jean-Jacques Ngondo, chef de bureau du HCR dans le Grand Kasai, a promis de contacter d'autres partenaires humanitaires pour répondre à ses besoins.
Dans un contexte de réintégration des rapatriés, ça va très au-delà du mandat du HCR. Nous allons relayer donc leurs besoins auprès d'autres acteurs qui pourront aussi aider dans l'accompagnement de cette population dans le processus de leur réintégration. Nous avons indiqué que ce site est bien entendu un site de convergence.
Signalons que les habitants de Bena Kasampuila accèdent désormais à l'eau potable grâce au forage construit avec le financement du HCR. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les candidats à l'élection présidentielle gabonaise du 12 avril prochain avaient jusqu'à ce samedi 18h heure locale pour déposer leur dossier. Ils sont 23 à s'être rendus au ministère de l'Intérieur pour remplir cette formalité. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a été le premier à déposer sa candidature samedi matin. Celui-ci a annoncé sa mise en disponibilité de l'armée, une condition fixée par le code électoral gabonais pour qu'un militaire puisse se porter candidat. Le ministère de la Défense l'a accepté, a-t-il indiqué. Le chef de la transition ira en indépendant avec sa nouvelle plateforme, le mouvement des bâtisseurs.
L'invité.
Un plan de lutte contre la malnutrition dans la province de la Tchopo a été élaboré par les acteurs étatiques en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du gouvernement ainsi que la société civile. Ce plan a été finalisé à l'issue d'un atelier d'alignement sur le plan stratégique multisectoriel de la nutrition organisé par la division provinciale du plan avec le soutien de l'UNICEF. Quelles sont les activités prévues pour sa mise en œuvre et quel est le montant global prévu? Le chef de la division provinciale du plan dans la Tchopo, le docteur Norbert Mosunga, s'entretient à Kisangani avec Jacques Mkonkole.
Docteur Norbert Mosunga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Docteur, l'atelier vient de s'achever. Il a été question d'élaborer un plan aligné au modèle de celui conçu par le PRONANUT, le Programme National de Nutrition à Kinshasa. Peut-on dire que ce plan est désormais disponible à Kisangani?
Merci pour la question. Je vous affirmerai que ce plan est disponible aujourd'hui au niveau de la province, mais cela nécessite également l'approbation ou encore la validation politique. Nous allons le soumettre à l'autorité politique ainsi que au gouverneur, à l'Assemblée provinciale, pour qu'il puisse valider afin que ce soit opposable à tous.
Avec l'organisation réussie de ce séminaire, docteur, on peut dire que vous avez atteint votre objectif.
Oui, la finalité, c'est avoir un outil à mettre à la disposition de l'autorité politique au niveau de la province qui pourra servir de guide ou si on peut dire de boussole pour la lutte contre la malnutrition au niveau de la province en vue d'arriver à réduire tant soit peu cette situation dramatique qui prévaut dans notre province.
Que prévoit ce plan?
Ce plan prévoit d'abord beaucoup d'interventions et à travers ces interventions, nous avons élaboré le cadre commun de résultats, c'est-à-dire à quoi est-ce que nous voulons arriver à travers la mise en œuvre de ce plan. Il y avait aussi un plan d'action opérationnel qui est établi sur base de priorisation des activités qui puissent être mises en œuvre. Et également, le budget a été dégagé pour une échéance de 5 ans Et c'est un budget qui est réparti annuellement durant ces 5 ans, de 2026 à 2030.
Et quelles sont les activités qui sont prévues et quelles sont vos priorités?
Oui, les activités prévues sont des activités qui concernent tous les secteurs qui ont un lien avec la nutrition.
Est-ce qu'on peut savoir de quel secteur d'activité s'agit-il exactement?
Si je peux citer, il y a l'agriculture, il y a l'éducation, il y a le développement rural et les autres secteurs qui contribuent dans la promotion de la nutrition au niveau de la province. Et les activités sont en rapport avec chaque secteur selon ses interventions au niveau du terrain.
Comment ce plan est mis en œuvre?
Oui, le plan sera mis en œuvre tel que c'est établi, c'est de façon annuelle. Et ça pourra être aussi être évalué à mi-parcours ainsi qu'à la fin pour voir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qui est prévu.
Cela nécessite des moyens financiers. D'où viendra le financement pour la réalisation des activités que vous envisagez dans ce plan?
Tout à fait, tout à fait. Un plan ne peut pas être réalisé sans moyens financiers. Et les moyens financiers proviendront d'abord de la mobilisation des recettes domestiques, c'est-à-dire les recettes du gouvernement provincial. Et ça nécessiterait également l'apport du gouvernement central. Et en l'occurrence, les apports qui nous sont toujours donnés par les partenaires techniques et financiers, et c'est vraiment indispensable, surtout en ce qui concerne l'appui institutionnel des différents secteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes.
Docteur Moussonga, quelle est la hauteur de l'enveloppe globale prévue pour la mise en œuvre de ce plan?
La hauteur de cette enveloppe, je vous dirais, bon, la sommation, si on fait la sommation de tout ce qui est établi, on pourra arriver à un montant qui peut avoisiner 2-3 milliards de dollars pour les 5 ans.
3 milliards de dollars, n'est-ce pas énorme par le temps qui court, docteur? Est-ce que ce montant n'est-il pas surévalué?
C'est insignifiant d'ailleurs par rapport à ce qui est établi au niveau national.
Docteur Norbert Moussonga, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Notre invité répond aux questions de Jacques Mkonkole. Ainsi s'achève ce journal coordonné et supervisé par Alain Irung, à la mise en onde Pierre Diassinois et grâce à Mzati à la présentation. Merci pour votre confiance.